Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été réalisé grâce à nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour nous soutenir, on te serait reconnaissant de nous donner une note sur l'application de podcast où tu nous écoutes. Cela nous aide énormément. De plus, notre site e-commerce a fait peau neuve. Pour découvrir nos articles de minage, nos vêtements, livres ou accessoires, rends-toi sur shop.découvrebitcoin.com. On te souhaite une excellente écoute.
David,
Jacques,
c'est un plaisir énorme de te recevoir sur la ligne orange aujourd'hui.
Plaisir partagé.
On est dans les Alpes, on participe à cette petite conférence alpine très conviviale.
Oui.
Et donc toi, tu nous viens du Canada.
Mm-hmm.
Mais la vérité, c'est qu'en fait, en France, tu es quasiment chez toi.
Oui.
En tout cas, dans l'écosystème, tu es très présent. Tu as beaucoup contribué, même sur la chaîne, je veux dire, ligne orange, au sein de Découvre Bitcoin, tu fais partie de cette famille.
Yes,
tu as pas mal participé au développement de cours d'économie.
Oui.
Il y a donc pas mal de gens qui nous regardent aujourd'hui, qui te connaissent déjà très bien. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement?
Ben oui, absolument. Je suis David. Je suis principalement l'auteur du livre « Tout sur Bitcoin » sorti en 2021, publié en France, hein, d'ailleurs, mm-hmm. Donc à Paris. J'ai eu la chance d'avoir
une version anglaise.
Oui, une version anglaise maintenant. Et donc, essentiellement dans la vie, je suis diplômé en informatique, je suis directeur technique et je me suis intéressé à Bitcoin en 2018. Et depuis, je n'ai cessé que de lire sur le sujet. Et maintenant, comme on avait déjà discuté, je me concentre plus sur l'aspect d'inflation. Je crois qu'on va y revenir. L'aspect d'inflation, hyperinflation, ainsi que la monnaie. Donc, essentiellement, je trouve que maintenant, j'ai un rôle de faire la recherche dans ce domaine pour essayer de vulgariser un peu. Je te ferai le parallèle rapidement avec Urban qui vient de présenter. J'arrive de sa session tout en haut. Et il a parlé des cypherpunks, des différences entre les mailing lists et tout ça, des sujets qu'on n'a pas approfondis, qu'on a le truc en général que possiblement Satoshi est un cypherpunk, et ainsi de suite. Et lui nous démontre que, ouais, avec le timing, les communications, peut-être que c'est une autre histoire. Donc, là où je veux en venir, c'est que je crois que chaque Bitcoiner a un rôle dans les sujets qui les intéressent, de creuser.
Ouais.
Pour ne pas juste rester en surface avec les trucs que tout le monde va connaître en surface puis qui va devenir une espèce de vérité partagée, c'est le fun d'avoir des gens qui creusent dans différents sujets.
C'est
et c'est ce que j'aime bien des Bitcoiners. On a presque tous comme ça. On a tous des sujets de prédilection. On creuse. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment l'histoire de la monnaie d'hyperinflation.
C'est ça. Il y avait Fanny aussi que j'entendais dire tout à l'heure que Bitcoin nous émerveille de sa beauté, de son élégance. C'est le titre d'un livre qui va sortir aussi de Ludovic Lars, L'élégance de Bitcoin.
Oui.
Et donc, je pense qu'on est les uns les autres fascinés par certaines facettes technologiques, historiques. On creuse, on étudie tout simplement parce que c'est intéressant et ça participe, ça nourrit la naissance d'un objet qui est beau.
Alors, on le partage ensuite, c'est ce qui est important. On s'est donné les moyens en faisant des conférences, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos.
Ouais.
De le partager.
Mm.
C'est comme ça qu'un mouvement, je crois, naît, qui est le nôtre.
Alors, tu t'es présenté comme l'auteur de ce livre, « Tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser ». Pour ceux qui sont à la recherche d'un livre très accessible, une bonne introduction au Bitcoin, je vous encourage vraiment à l'acquérir, l'offrir. C'est vraiment typiquement le livre que vous pouvez offrir à vos parents, vos amis, si vous voulez leur donner un livre qui va être accessible. Et puis j'avais remarqué qu'il y avait au niveau du travail d'édition, il y a eu vraiment un beau travail qui fait que, parce que bien souvent les livres sur Bitcoin sont des livres qui sont écrits, comme c'est le cas pour toi, par des gens qui viennent d'un monde assez technique.
Oui.
Or là, il y a vraiment, et donc ça peut occasionner parfois une fatigue au niveau de la lecture pour des gens qui sont pas pluggés de la même manière. Or là, le travail de l'éditeur fait qu'il y a un équilibre. En fait, ça se lit vraiment très facilement, c'est pas fatigant, les messages passent bien.
Et je sais pas si tu as remarqué ça ou c'est parce que je t'en ai déjà parlé dans nos multiples discussions, mais mais le travail d'édition a été ardu. Ça a pris 6 mois. L'écrire, ça a pris 4 mois. Il y a eu 6 mois d'édition parce que mon éditrice voulait que je traite tous les sujets dans l'ordre et que je les termine. Moi, c'est pas ça que j'avais fait dans mon manuscrit. J'avais introduit plusieurs sujets, je les couvrais plus tard dans d'autres chapitres. Et elle m'a dit, non, ça va pas. Il faut que... Là, je me disais...
Concision, cohérence et puis séquencement des
La séquence était très importante. On a vraiment galéré pendant 6 mois et elle a aussi coupé genre 8000 mots. Donc, le travail d'une éditrice... Chaque phrase qui est dans le livre, c'est moi qui l'ai écrit, mais la structure vient essentiellement de l'éditrice. C'est très important.
C'est ça. Et puis, pour ceux qui souhaitent se familiariser un petit peu avec ton travail et ton approche un petit peu pédagogique, on peut les rediriger vers ta chaîne YouTube sur laquelle tu as créé cette série de petites vidéos pédagogiques sur Bitcoin. Vraiment, c'est le niveau... Niveau 0-1, c'est ce qui se fait de plus accessible, qui est très... T'appelles ça des doodles, c'est ça?
Ouais, ben c'est le mot en anglais pour les petits dessins. J'utilise la technologie je me souviens pas du logiciel, désolé. Mm-hmm. Je pense que ça s'appelle doodle, justement.
Ouais.
Et c'est très simple à utiliser, des banques d'images qui se dessinent en traits là, de crayon. Et voilà, expliquer en des vidéos courtes, quoi, à 2, 3, 5 minutes. J'explique même le plus loin où je vois, c'est le minage. J'explique littéralement tout le minage, tout comment ça fonctionne, l'espèce de loterie, le hachage, là, qui est une signature, j'appelle ça une signature numérique un peu pour simplifier. Donc, il y a le moteur, la machine qui fait le signal. Donc, c'est très simple.
Tu as des illustrations et des messages qui sont très parlants. Moi, je les ai recensés. Hein. Ils sont sur le site BTC Touchpoint. Ça apparaît puisque ça me paraît être une bonne porte d'entrée, assez ludique même visuellement. Et puis, il y a tout un travail que tu fais, un travail de traduction que tu fais pour Blockstream. Blockstream, une société importante, tu traduis un blog et puis tu as fait la version de leur wallet, de leur portefeuille.
Oui, j'ai traduit les nouveaux termes de la dernière version de Green.
Ouais.
Travail intéressant d'ailleurs.
Ouais. Donc, ça fait pas mal de choses. Et puis, en plus, tu enseignes de manière assez formelle, c'est à l'université, un collège?
Oui, ça s'appelle un cégep chez nous. Là. C'est, disons, entre la fin du lycée, que vous appelez ici, nous, c'est le secondaire, et l'université. C'est dans le cadre de la formation continue, donc, qu'on appelle. Donc, pendant 2 ans, j'ai donné 8 fois, j'avais un cours de 7 heures.
D'accord.
Et c'est la structure du cours, c'est essentiellement le squelette de mon livre.
Ouais,
j'avais monté ce cours. C'est ça, l'origine du livre, c'est ça. J'avais monté ce cours de 7 heures, je l'ai donné. Et à chaque fois, j'avais une quinzaine de personnes, je te dirais, toutes des professionnels qui avaient un intérêt pour Bitcoin.
Et la monnaie au sens large.
En fait, tout le monde venait pour la blockchain et Bitcoin, mais moi, je faisais le cours sur la monnaie. Et je leur disais, c'est ce qui est le plus important. Je parlais de tout, mais la section sur la monnaie était très étoffée parce que je me disais, il faut comprendre la monnaie si on veut comprendre Bitcoin.
C'est ça. Et puis, il y a ce cours qui vient de sortir, Économie 201, ou je ne sais plus comment...
Econ 204.
Voilà, 204, qui traite d'inflation, d'hyperinflation. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de discuter un petit peu de ta métamorphose en éducateur spécialiste de la monnaie.
Ouais.
Je t'avais entendu dire dans une autre interview, ou raconter cette expérience, cette découverte assez trépidante des crypto-monnaies en général et de Bitcoin, où en fait tu minais du Bitcoin avec un ami en recyclant du vieux matériel. Et dans la manière dont tu m'as parlé, on sentait qu'il y avait quand même une phase assez joyeuse, presque exubérante.
Oui.
En tout cas, beaucoup de joie qui est de toute façon toujours présente sur ton visage et qu'on retrouve de toute façon où qu'on te croise, hein, que ce soit sur les terrasses du casino de Biarritz ou dans n'importe quelle allée de conférence, on te retrouve en fait avec ce grand sourire et puis ces paquets de bifetons, de coupures de monnaie de singe que tu distribues à tire-larigot. Alors là, c'est des pesos, c'est des bolivares du Venezuela, mais bon, en gros, t'as toute une collection et je voulais savoir à quoi ça renvoyait pour toi, un petit peu ce show que tu fais, mais c'est un vrai travail d'éducation par le concret, quoi.
Tout à fait, oui, il y a 2 volets à ça, en fait. Il y a les billets que je distribue qui sont, et la raison pourquoi j'ai distribué les billets, c'est que quand j'ai reçu mon livre, je me disais, hey, ça serait bien d'avoir des marque-pages avec mon nom, le nom du livre, un site web, ainsi de suite, et j'ai commencé à regarder Ça coûtait, je sais pas, 200, 300 balles, je sais pas, quelque chose comme 2, 3, 5 cents, dépendamment du volume, du marque-page. Ouais. Et là, à cette époque, le deuxième volet que je vais expliquer, c'est que pourquoi les billets sont importants, c'est que je te dirais la moitié des études que j'ai faites sur la monnaie viennent de billets que je découvre par hasard sur eBay. En regardant, j'ai différents fournisseurs, je regarde leurs nouveaux arrivages là, constamment. Et des fois, je vois, je sais pas moi, un billet de l'Irak. Ils disent « Ah, j'ai pas de billet de l'Irak. » Donc, le billet est 3 balles, je le commande, je reçois le beau billet, il est neuf. Et là, je me mets à creuser. Bon, c'est quoi l'histoire de ce billet? Et là, je fais toutes sortes de découvertes. Toutes les périodes d'hyperinflation que j'ai étudiées, ben, j'ai d'abord regardé la liste des hyperinflations, je regarde un billet, ah oui, un billet d'un million, là, je regarde un peu l'histoire du pays. Je pars de cette... parce qu'on peut partir dans tous les sens, il y a eu 57 hyperinflations, donc comment les choisir? Donc, c'est vraiment par le biais physique que je démarre
un peu
mes recherches.
Un travail d'archéologue qui va chercher des artefacts et puis qui resitue l'histoire.
C'est exactement ça. Même chose avec les pièces. Donc, j'ai avec moi toute... j'ai une collection d'où on peut faire toute l'histoire de la monnaie, des pièces de monnaie, à partir de la Lydie en 600 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. On peut tout voir l'évolution des pièces. Et moi ça m'ancre dans le réel.
C'est ça qui est assez passionnant quand même. C'est de se dire que toi, tu viens du monde de l'informatique. Moi, je viens du monde de l'aide au développement, l'eau, l'assainissement. Rien ne me prédisposait à m'intéresser à un morceau de code ni à la monnaie. Hein. De toute façon, on n'y connaît rien.
Non.
Et puis, on se retrouve, en tout cas, moi, je me retrouve sur mon ordinateur à t'écouter parler de la monnaie, un sujet que tu as découvert et qui ne t'a pas quitté, en fait. Tu es devenu complètement obsédé par ce sujet.
Absolument.
Qui est un sujet magnifique, puisqu'on retrace un peu l'histoire de l'humanité. Et moi, je me retrouve à regarder ces vidéos où tu nous présentes tes collections. Bon, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans que j'allais passer du temps à regarder des vidéos de collections de monnaie. Je t'aurais dit, non, moi, je ne suis pas passionné des collections de timbres ou de quoi.
Exactement, moi non plus.
Mais en fait, c'est génial de t'écouter. Et je pense que dans ton approche pédagogique, il y a cette spécificité qui est de t'accrocher vraiment au réel, en toute simplicité, pour permettre à chacun de se rapprocher de ce thème qui est trop éloigné de nous aujourd'hui. Quoi.
Et c'est le but de ça, c'est exactement le but de ça, c'est que... quand je le distribue aux gens, des fois je le fais dans des conférences qui ne sont pas nécessairement de Bitcoin, instantanément, ils comprennent l'inflation. Ils se disent, mais pourquoi tu me donnes, est-ce que ça vaut 2 euros, est-ce que ça vaut 2 $ et puis il y a un 2 dessus, non, ça vaut rien. Comment ça, ça vaut rien? C'est de la monnaie, c'est de la vraie, oui, c'est de la vraie. Mais pourquoi ça vaut rien? Ah, c'est ça la question, pourquoi ça vaut rien? Ouais. Et là, l'inflation, hein, et le cheminement est instantané. Je pourrais parler une heure d'inflation à ces gens, ils comprendraient moins l'inflation qu'en leur tendant un billet.
Et malgré tout, j'imagine qu'il y a encore une résistance où les gens se disent « Ouais, OK, ça, c'est des monnaies du Venezuela,
toujours les pays.
Oui. Ça ne nous concerne pas directement. » Parce qu'effectivement, nous, dans l'échelle d'une vie ou d'une demi-vie, on ne voit pas trop cette dévaluation ou cette inflation se manifester. Mais toi, t'as fait ces analyses, et on le sait bien, toutes les monnaies fiat, c'est-à-dire toutes les monnaies qui ne sont plus adossées à de l'or, elles voient leur pouvoir d'achat décliner de 90. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne valent plus rien, c'est
ça? C'est ça, même à 2 % Même à 2 % durant 30 ans, c'est simple. C'est, en plus, c'est des intérêts composés,
oui,
qu'on appelle. Ça se cumule. Même facilement comme ça, 2 % par année pendant 30 ans, ça fait 60 % sans compter les intérêts cumulés. Donc, c'est normal que la monnaie perde...
Par le temps qui court, là, les gens commencent tous à se rendre compte que s'ils gardent de l'argent à la banque et qu'ils le laissent comme ça pendant 5 ans, ils font une grave erreur. Quoi.
Oui.
Ouais. Et donc, tu me disais aussi... au sujet de Bitcoin, que toi, aujourd'hui, tu as l'impression que plus d'éduquer les gens sur le Bitcoin ou au Bitcoin, ce que tu veux, c'est l'éduquer sur la monnaie.
Oui.
Tu me disais, je sens que c'est plus ça ma mission, ma direction. Quoi.
Tout à fait. Oui, parce que, en fait, bon, pour être plus clair, quand je fais des conférences, je ne parle pas de Bitcoin. Au final, peut-être une petite conclusion ou juste souligner, mais je n'ai pas vraiment besoin de parler de Bitcoin parce que je n'ai pas envie de vendre Bitcoin aux gens. J'ai envie de leur expliquer pourquoi on a besoin d'une solution comme Bitcoin. Bitcoin est une solution. L'or pourrait peut-être l'être. Ouais. L'or est dépassé dans le sens qu'on ne peut pas le... Très bien expliqué dans le livre de Lynn Alden, en passant, que dans le fond, le problème de l'or, c'est qu'aujourd'hui, on fait des transactions à distance et l'or, c'est compliqué à envoyer à distance. C'est ça son problème principal. Mais bon, est-ce qu'une monnaie adossée à l'or? Bon... mais non, puisque Bitcoin maintenant existe. Donc moi, Bitcoin nous offre une solution. En fait, c'est qu'on sait que c'est possible maintenant. Avant, ce n'était pas possible. Mm-hmm. Ça prenait quelque chose pour en créer ou fallait faire de la monnaie dette. Mais maintenant, Bitcoin existe. Donc, pourquoi pas expliquer aux gens le problème de la monnaie et éventuellement, c'est pas obligé de venir de moi si... Si les trucs suivent leur cours de la manière... Les peuples ont toujours choisi les monnaies les plus dures hein, à travers l'histoire, sauf quand il n'y avait pas le choix, comme aujourd'hui, c'est imposé. Donc, moi, j'ai assez confiance que si Bitcoin remplit le rôle dont il est investi, si ça fonctionne, si on est capable de scaler, si on a des technologies pour démocratiser ça à 4 milliards de personnes... moi, je vois aucune raison pourquoi Bitcoin ne pourrait pas devenir la monnaie de réserve puis remplacer le système aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin est obligé de faire ça. Mm-hmm. On peut aussi sensibiliser les gens pour qu'ils se servent de Bitcoin contre un hedge, contre le système. Ils pourraient shorter, dans le fond, le fiat avec Bitcoin. Donc, si ce n'est pas la monnaie de réserve, ça pourrait simplement être un outil pour les gens qui sont informés sur le sujet de la monnaie, puis se dire, ah ben moi, je choisis de mettre mon épargne, ma valeur, dans un truc qu'on ne peut pas diluer. C'est ça. Peut-être c'est de la dette. Ce qui fait la demande pour la monnaie fiat, c'est qu'on est obligé de payer des impôts. Et le pays nous oblige à obtenir des fiat pour payer des impôts. Donc, ça crée une demande. Donc, ça crée... la demande, ça a une valeur. Essentiellement, c'est la théorie de la MNT.
C'est le cours légal en fait, qu'on a besoin de cette monnaie pour s'acquitter de nos obligations.
Exactement. C'est pour ça que la monnaie... Donc, moi, je suis d'accord que la monnaie fiat a une réelle valeur. Mais on peut discuter de la justification, dans le sens que c'est parce qu'on a besoin de payer des impôts que la monnaie a une valeur. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, mais la monnaie fiat... C'est pas juste, en fait, c'est une question de confiance, mais c'est pas ésotérique, là. C'est vraiment, il y a une demande réelle, puisqu'il faut obtenir cette monnaie-là pour payer nos impôts. C'est un vrai principe économique, mais on peut en discuter, disons.
Et puis, finalement, il y a donc détachement physique, détachement linguistique, et puis un détachement cognitif. On peut dire que notre éloignement de la monnaie, il est aussi donc psychique, cognitif, et que c'est... Alors, dans quelle mesure on peut mettre ça sur le dos du système éducatif? Est-ce qu'on est en droit d'attendre, en tant que citoyen du Canada ou de France ou d'ailleurs, que l'éducation nationale nous enseigne l'histoire de la monnaie? Alors, j'ai vérifié, il y a quand même des petites choses, il y a des petits trucs, mais est-ce que ça ne mérite pas un enseignement un peu plus conséquent? Qu'on nous dise, voilà... Ce qui est important pour qu'une monnaie soit bonne, c'est ça. Quelles doivent être les caractéristiques des bonnes monnaies? Est-ce que ça ne devrait pas être un sujet dans l'éducation?
Mais est-ce que c'est à leur avantage? En fait, j'en ai parlé hier dans une discussion. Dans l'histoire de la finance, il y a eu les assurances. Okay, ça a terminé avec les assurances. L'histoire, toute l'évolution de l'assurance, c'était bien écrit dans le livre de Neil Ferguson, « The Ascent of Money ». Et à la fin, l'État a pris le contrôle de beaucoup d'assurances, l'assurance santé, l'assurance emploi, l'assurance chômage, tout ça. Et c'est devenu l'État-providence. Ouais. L'État-providence ne peut pas fonctionner sans monnaie fiat. C'est impossible. Ce qu'elle doit faire pour donner les services à la population, quand ça dépasse ses capacités budgétaires, ils n'ont pas le choix de créer plus de monnaie, de dévaluer la dette, ainsi de suite. Donc, moi, je ne crois pas que l'État-providence peut fonctionner sans le fiat. Donc, à un moment, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État-providence? On pourrait simplement avoir des concepts d'assurance que les gens pourraient payer et on pourrait avoir un filet social autre, mais ça ne serait pas nécessairement être obligé que ce soit l'État qui le gère. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est dans l'État aurait avantage à expliquer c'est quoi la monnaie pour vrai aux gens, parce que juste le système d'enseignement dépend aussi de la monnaie fiat pour le financer. Donc, expliquer aux gens que, ouais, vous voyez la monnaie qu'on utilise pour financer votre système, ben c'est du vent. Je pense, là, je ne parle pas d'un complot, c'est juste une réalisation que quand tu écoutes l'histoire, la raison pourquoi on a dit fiat, c'est parce que l'État a pris de plus en plus de responsabilités et a eu besoin de financement et on a eu la monnaie fiat. En fait, donc, on ne peut pas casser ça du jour au lendemain et garder le même système. C'est ça que je veux dire.
Si l'État a encouragé les citoyens dès leur plus jeune âge à jeter un regard critique sur la monnaie, ça mettrait en évidence la dépendance du système à un outil qui a des défauts et qui nous entraîne dans une dérive, mais qui s'est imposé pour financer un système,
Il y a plein de gens qui vont dire « Oui, c'est beau votre truc là, de monnaie dure, puis il ne faut pas dévaluer l'épargne, je suis d'accord, mais dit, qu'est-ce va devenir la société si on n'a pas l'État-providence? » Je comprends leur inquiétude, on pourrait peut-être juste en discuter.
Oui, c'est un sujet.
C'est un sujet à discuter, voilà.
Et il y a un rapprochement à faire qui a été fait d'ailleurs à plusieurs reprises entre cette phase où on est dans cette phase où on sent qu'il y a un besoin en fait de lucidité, de discernement sur ce qu'est la monnaie et les alternatives qui se présentent aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Mm-hmm. Y a un rapprochement qui est fait souvent, ça a été fait par Tuur de Meester, Anil et puis Thomas Mang, entre l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui et puis l'époque où il y a eu la découverte de la presse de Gutenberg, l'imprimerie. Oui. À cette époque, cette technologie a permis à l'humanité en fait de quitter cet état d'analphabétisation assez généralisé, donc et de libérer la connaissance.
Tout à fait.
Pas du jour au lendemain, parce que ça s'est produit sur des décennies. Mais il y a eu progressivement la possibilité de se libérer en fait du contrôle de la connaissance par la noblesse et les clergés, qui a bénéficié à tout le monde partout. Et aujourd'hui, on a la possibilité aussi, avec Bitcoin, qui est une découverte du même ordre, on a la possibilité de se libérer des défaillances d'une monnaie qui est gérée par une autorité qui, de toute façon, est faillible. Quoi.
On est 100% d'accord. Le parallèle que je ferais, c'est que la presse, la distribution de la connaissance a permis de donner l'information à des génies qui n'étaient pas nécessairement dans les classes d'élite. Donc, il y a des gens qui ont découvert des trucs qui sont nés pauvres, puis qui ont découvert des trucs, d'un. Et de deux, je crois que c'est du côté de la presse. Puis dans Bitcoin, ce que ça fait, c'est que ça va donner la possibilité à des gens qui ne sont pas prêts de la presse à billets de pouvoir épargner, d'avoir une valeur, de ne pas se faire outbider par quelqu'un qui a accès à la presse et de se faire tasser en disant « Ah, t'es trop petit. » Donc, ça, je pense qu'avoir un étalon monétaire égal, ça va donner autant de chances à des gens qui ont déjà accès à du crédit, disons, comparé à quelqu'un qui va dire « Ben moi, je vais épargner toute ma vie et je vais construire, je vais faire tel projet. » Mais là, il arrive pour le faire puis il se fait outbider par une autre entreprise qui a emprunté l'argent. Donc, ça va mettre le terrain plus égal. Donc, moi, je pense que c'est plus équitable pour tout le monde. Je pense que c'est le parallèle que je ferais.
Donc, je pense que de toute façon, les circonstances font, et on a bien vu à quel point, par exemple, au niveau macro, il y a des tensions qui s'exercent sur l'hégémonie du dollar. Mmh. Il y a des tentatives de s'émanciper de cela. Et il y a même, et à l'échelle nationale, on est tous dans des conditions d'inflation qui poussent en fait la population à commencer à se poser ces questions. Et pour nous, c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être de réussir à présenter Bitcoin comme une alternative qui est un saut qualitatif, qui n'est pas nécessairement une révolution anarchiste qui veut tout casser. C'est d'ailleurs un système qu'on rejoint ou non, si on le veut ou pas.
Absolument.
Eh bien, écoute, David, tu vois, moi, ce qui me plaît dans cette conversation, c'est qu'on met l'accent sur l'émerveillement, la découverte de ce sujet qui nous est si étranger, qui ne devrait pas l'être parce qu'il est au centre de tous nos échanges quotidiens, la monnaie. Alors, il y a plein de contenus vers lesquels je pense qu'on va vouloir diriger l'audience, le public, tous ceux qui nous écoutent. Là, il y a ta chaîne YouTube avec les doodles. Bon, ça, c'est vraiment à partager à toute la famille, quoi, y compris les enfants, limite. Quoi. Mmh. Et puis, pour ceux qui veulent Voilà, en mode découverte, en mode archéologique presque, s'intéresser à ces questions d'inflation, mais pas sur le mode anxiogène qu'on nous raconte à la télé là tous les jours, sur un mode voilà, un petit peu dépassionné ou en tout cas historique, eh bien moi je conseille à tout le monde de suivre ton cours économie 204. Et puis, je me réjouis de te retrouver bientôt pour discuter de ton prochain livre là, sur l'intelligence artificielle. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve
au BEF
hein, printemps prochain.
Merci à toi, Jean.
Salut, David.
Ça fait un plaisir. Bye-bye. Salut tout le monde. Merci.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreons, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.